Carrefour, présenté par Catherine Frameri.
Hormis un maître queue eczémateux et un sommelier grippé, virgule, et un sommelier grippé, virgule.
Souvenez-vous, c'était il y a maintenant 4 ans le premier championnat d'orthographe. Une compétition organisée par Bernard Pivot qui avait joué les instituteurs pour l'occasion. Prochaine édition de ce championnat patronné entre autres par Radio France Internationale prévue cet automne. Mais d'ici là, le débat sur l'orthographe risque fort de rebondir avec la sortie au seuil début septembre d'un ouvrage collectif intitulé « Que vive l'orthographe ». Ce livre dont on parle déjà beaucoup prône une réforme modérée de l'orthographe et il est postfacé par le responsable du SNI, le principal syndicat des instituteurs français, Jean-Claude Barbaran, ce qui lui donne une autre dimension. Alors faut-il, peut-on moderniser une orthographe qui a peu évolué depuis 2 siècles, alors que la langue orale, elle, a connu de nombreuses modifications? Qui pourrait mettre en œuvre une telle réforme? C'est le sujet de ce dossier Carrefour d'aujourd'hui et nous avons d'abord demandé à Jean-Claude Barbaran de nous présenter « Que vive l'orthographe », cet ouvrage auquel il a apporté sa caution.
Nous avons constaté à la lecture d'enquêtes et de sondages qui ne datent pas de maintenant, et beaucoup de gens se préoccupent de cette question depuis des décennies, que le même type de fautes avaient tendance à revenir très fréquemment, y compris dans des textes qui ne sont pas rédigés par des gens qui ont échoué à l'école, mais par des gens qui font profession d'écrire. Je pense aux journalistes, par exemple, mais pas seulement eux. Et ces fautes, ce sont les traits d'union, ce sont les accents, ce sont un certain nombre de consonnes doubles qui ne peuvent pas forcément se justifier par l'étymologie. Alors nous pensons qu'il y a là une voie de recherche de simplification, comme on pourrait aussi voir du côté de certaines conjugaisons, certains accords de participes passés, notamment des participes passés et des verbes pronominaux, qui sont très rarement respectés. Le livre est collectif, il y a un linguiste qui l'a écrit, il y a un ancien instituteur qui travaille avec une association de recherche sur l'orthographe. Moi, je n'interviens dans cette affaire que pour souligner l'urgence que nous voyons et l'importance que nous attachons à une réforme qui serait une réforme légère. Nous ne préconisons rien nous-mêmes, nous attirons simplement l'attention. Je peux donner quand même des exemples d'anomalies curieuses sur, par exemple, chariot, un seul R, charrette et tous les autres mots de la même famille, 2 R. Pourquoi un R dans un cas, 2 R dans l'autre? Il y a d'autres exemples de cette nature. On ne voit pas toujours de justification, même en recourant à l'étymologie, à certaines orthographes.
Les propos de Jean-Claude Barbaran ont été recueillis par Nicolas Don. Ce plaidoyer n'est pas le premier du genre. Ronsard, par exemple, demandait déjà au XVIe siècle une écriture nouvelle. Mais c'est surtout depuis la Révolution qu'apparaissent régulièrement des pamphlets qui réclament la chute de la Bastille du conservatisme orthographique. Plus près de nous, en février dernier, 10 éminents linguistes ont signé dans le quotidien Le Monde un appel pour réclamer une réforme de l'orthographe. Parmi eux, Nina Katache, qui est chercheur au CNRS et qui publie à la rentrée un livre intitulé « Les délires de l'orthographe ».
Le fond du système est relativement clair dans ses grandes lignes. Et ce qui nuit beaucoup à son assimilation, ce sont des exceptions, mais qu'en réalité, on met en avant pour des raisons bizarres, parce qu'on ne s'en sert pratiquement jamais à l'écrit. On enseigne mal l'orthographe parce qu'on accorde trop d'importance aux anomalies. Si on les supprimait, on ne supprimerait pas grand-chose d'important et on pourrait faire l'essentiel. C'est la première raison, disons interne. Mais il y a une raison externe aussi qui me tient à cœur. C'est que pour des raisons psychologiques, l'écriture est un lieu de convergence des blocages. C'est-à-dire, comme toute la culture passe par l'écrit, on se bloque là-dessus. Et si la clé est fermée, c'est-à-dire justement si on n'arrive pas ou on a trop d'échecs, trop de zéros, etc., non seulement on se bloque vis-à-vis de l'orthographe, mais on se bloque vis-à-vis des études, voyez, parce que c'est la clé, l'écrit. Et s'il y a un blocage à ce niveau-là, l'enfant a une position, une réaction d'inertie qui fait que finalement, alors qu'il est très doué par ailleurs et qu'il serait tout à fait capable de réussir, il a une réaction qui se répercute sur l'ensemble de sa vie.
L'orthographe est en effet un des piliers de l'enseignement français et il est difficile pour un enfant de s'en sortir s'il n'a pas assimilé les bases. En société, par exemple, il est indéniable que les fautes d'orthographe sur un curriculum vitae sont du plus mauvais effet. Remarquons au passage qu'on parle de fautes et non d'erreurs. Une bonne orthographe est un signe de bonne éducation. Écoutez ce qu'en dit Daniel Péchoin, le rédacteur en chef de la partie langue du fameux dictionnaire Larousse.
La maîtrise du langage, que ce soit la maîtrise du langage écrit ou la maîtrise du langage parlé, il est vrai que c'est tenu, et je crois que c'est tenu à juste titre, pour un signe d'appartenance de classe. C'est vrai que les gens qui maîtrisent bien le langage sont généralement des gens qui ont eu accès à l'enseignement secondaire ou à l'enseignement supérieur, et donc souvent, les statistiques sociales sont là pour le dire, des gens qui appartiennent à des classes aisées. Évidemment, le recouvrement n'est pas géométrique. On peut être un bourgeois et mal parler, et être un ouvrier et avoir une maîtrise parfaite de l'orthographe et d'une parole élégante. Mais il est vrai que les deux choses coïncident souvent. De sorte que le prix attaché à la maîtrise de l'orthographe va avec le prix qu'on attache à la reconnaissance sociale. Et c'est assez sensible chez les utilisateurs du Petit Larousse. Le Petit Larousse est un dictionnaire qui a un très large public. Et c'est vrai que les réactions de nos lecteurs, telles qu'elles se traduisent dans le courrier, sont souvent des réactions extrêmement puristes, extrêmement conservatrices au niveau de l'orthographe. Et on nous signale avec beaucoup d'indignation la faute d'orthographe commise par tel journaliste de la presse écrite ou la faute de liaison commise par tel journaliste de la presse parlée.
L'orthographe est donc très considérée. Pourtant, certains diraient parce qu'elle est difficile. Même les adversaires d'une réforme n'en disent qu'on vienne pas. Alors, faut-il la moderniser et l'aménager? Dans quelle proportion? La réponse de Joseph Hans, éminent linguiste, auteur d'une véritable bible des difficultés du français et président du CILF, le Conseil international de langue française.
Vous savez, le problème de l'orthographe est un problème extrêmement complexe. Tout philologue, comme moi, a rêvé d'une réforme d'orthographe. Mais quand on se met à penser ce qu'il faudrait faire, on ne s'arrête plus. Consonne double, consonne étymologique, un tas de vieilleries, enfin, qui encombrent la langue française a une orthographe épouvantable. L'orthographe est tellement capricieuse, tellement chargée de vieilleries, que si on veut la réformer, il faut aller à fond. Certains se sont dit, non, faisons pas de réforme, faisons une petite amélioration. Mais est-ce que ça vaut la peine, enfin, n'est-ce pas? Nous avons essayé de faire ça, justement, mais je crois que Moi, je le souhaitais de tout mon cœur, mais je n'ai aucune confiance.
Comment réformer l'orthographe? Certains s'y sont déjà essayés. Citons entre autres la commission Langevin-Wallon, juste après la Libération, la commission Bellé en 60-65, mais tous ces rapports n'ont jamais été discutés. Une seule proposition a été suivie des faits, la réforme Timonier, du nom de son rapporteur. On retrouve Daniel Péchoin, le rédacteur en chef de la partie langue chez Larousse.
Il y a quelques années, un grammairien qui s'appelait Timonier avait proposé ce qu'il appelait un émondage. Et il y avait dans cet émondage des propositions qui sont passées dans les fêtes. Par exemple, chose trappe avec deux P comme trappe a été admis par l'Académie il y a quelques années. Événement avec un accent grave au lieu d'un accent aigu sur le deuxième E a été également admis. Ces deux changements orthographiques ont été repris dans le Petit Larousse. Mais Timonier proposait par exemple d'écrire allègrement avec accent grave comme austèrement et non allègrement, amérir avec un seul R d'après-mère et non pas amérir avec deux R comme atterrir. Bon, il me semble que là, c'est un émondage qu'il est souhaitable de faire sans vraiment porter atteinte à l'intégrité de la langue.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le I, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point.
Vous écoutez Carrefour, consacré au débat sur une éventuelle réforme de l'orthographe. On vient de voir combien le contenu d'une éventuelle modernisation de l'orthographe était sujet à polémique. Et l'affaire se complique encore si l'on réfléchit à l'application d'une réforme. Qui pourrait la mettre en place, l'installer dans les mœurs? Les instituteurs, l'académie, un pouvoir politique? On retrouve Joseph Hans, le président du SILF.
Depuis déjà le XVIe siècle, il y a eu des tentatives de réforme. Il n'y en a qu'une qui a réussi au cours de l'histoire, c'est celle que l'Académie elle-même, ceci est important, celle que l'Académie elle-même a faite au XVIIIe siècle. Sur 18 000 mots que comprenait son dictionnaire, elle en a réformé 5 000. C'était magnifique. Toutes les autres tentatives ont échoué. Même une tentative à laquelle j'ai été associé comme président du Conseil international de la langue française en 68. J'étais chargé par le ministre de l'Éducation nationale en France de présider une commission qui devait donner son avis sur le projet de réforme d'orthographe de Timonier. Nous avons travaillé 4 ans, j'ai remis un rapport en 72, rien n'en est sorti. Sauf en 75, 2 ou 3 petites broutilles, que l'Académie a d'ailleurs annulées en 77.
Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ce revirement de l'Académie? Est-ce que ce n'est pas un petit peu mauvais pour le français en général? Je pense particulièrement à tous les étrangers qui voudraient apprendre le français, qui peuvent se trouver un petit peu désorientés devant ces réformes continuelles.
L'Académie est extrêmement conservatrice et elle le semble plus que jamais. Dans l'état actuel de l'opinion, je ne crois pas qu'une réforme puisse aboutir sans l'aval de l'Académie française. Ce n'est pas une autorité politique qui pourrait le faire. Je ne vois pas le ministre de l'Éducation nationale français prendre une décision de ce genre sans l'aval de l'Académie. Et si c'est une décision politique, elle ne sera jamais suivie nécessairement à l'étranger. On est là dans un cercle vicieux, une impasse.
Il est vrai que les discussions sur l'orthographe n'associent pas volontiers les pays francophones, alors que les Français ne représentent pas le tiers des personnes parlant notre langue dans le monde. Et pensons aux problèmes que poserait une réforme de l'orthographe à tous ceux qui essaient d'apprendre notre langue. Si elle est difficile aujourd'hui, elle est du moins stable. Surtout, ces difficultés, comme ces absurdités, représentent une merveilleuse école de la vie, selon l'académicien Bertrand Poirot-Delpeche, pour qui une simplification de l'orthographe ne rendrait service à personne.
Il y a un argument que j'ai vu manier et qui me paraît très faux, c'est de dire que on va faciliter grandement l'apprentissage de la langue écrite et parlée. C'est pas vrai. Il y a au contraire, on va rendre difficile la compréhension de certains mots parce que l'étymologie permet de les désosser et de comprendre leur origine. Après tout, l'étymologie, c'est le roman d'un mot. Il est donc important d'en retrouver des traces dans son orthographe même. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un apprentissage de la vie sociale à travers l'apprentissage de l'orthographe. Et qu'au fond, il y a plein de règles dans la vie sociale qui sont absurdes, qui ne sont pas justifiables, et auxquelles il faut bien se plier. Et je pense que l'orthographe est une espèce d'école de vie en société, au moins autant qu'une école grammairienne. Dernier point, plus les règles sont absurdes, et plus elles sont formatrices. Et quand on vient nous dire que ce serait un élément de justice sociale, d'égalité des chances, de simplifier l'orthographe, je ne crois pas du tout. Les enfants de bourgeois, les nantis, les culturels continueront à avoir une orthographe plus aisée et plus fluide que les autres. Et le credo, si vous voulez, de l'école publique, c'était au contraire de créer une élite républicaine et que, au fond, les grands-pères instituteurs des instituteurs d'aujourd'hui étaient convaincus, eux, que l'égalité sociale, on la réalisait en apprenant aux gosses à écrire et à lire et avec l'orthographe.
Quoique la cuisine fût spacieuse, virgule, que l'on n'en conclut pas, qu'elle pût contenir tout le personnel, point d'exclamation.
C'était un autre extrait de la dictée finale du premier championnat d'orthographe organisé par Bernard Pivot en 1985. L'orthographe est un art difficile, mais au moins c'est un art. C'est du moins l'opinion de Bruno De Waal, le professeur de français qui a remporté ce premier championnat d'orthographe après 1500 heures de travail acharné.
Je m'estime relativement bien placé pour apprécier et pour redouter les difficultés, les choses trappes de l'orthographe. Il y a des choses aberrantes, absurdes dans notre orthographe, je le reconnais bien volontiers. Mais au risque de choquer certains de mes contradicteurs, j'ajouterai avec une pointe de provocation que c'est peut-être là ce qui fait son charme, en dernier ressort. Une orthographe phonétique serait, c'est incontestable, plus facile à apprendre comme à manier. Mais quel appauvrissement et quelle tristesse que cette orthographe, exclusivement utilitaire, fonctionnelle, sans la moindre originalité, pour ne pas dire sans âme. Cela reviendrait, à mon avis, pour les amateurs de beaux meubles, à mettre sur le même plan la table de Formica et le meuble de style. Alors c'est sûr qu'ils remplissent le même usage et que quelquefois même le Formica s'avère beaucoup plus pratique. Il n'empêche que pour ma salle à manger, je préfère le meuble de style. Et je me demande bien pourquoi je refuserais à ma langue, qui pour reprendre l'expression de M. Mermaz est le plus précieux de nos patrimoines, ce que j'accorde à ma salle à manger. Puis si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours procéder à une expérience très simple. Vous écrivez « éléphant » de façon phonétique et vous me dites si privé de son pH, l'éléphant n'a pas perdu de son caractère pachydermique. C'est un peu comme si on lui avait arraché la trompe.
Notons à la décharge des partisans d'une réforme qu'ils refusent quand même le principe d'une orthographe phonétique prônant une seule simplification. Mais pour Bruno De Waal, le problème est aussi de savoir qui pourrait mettre en place une réforme.
Là va se poser un certain nombre de problèmes techniques. Jusqu'où simplifier? Qui surtout simplifiera? Se trouvera-t-il une autorité suffisamment incontestable pour imposer une réforme de ce genre? Et en tout état de cause, ne serait-il pas plus simple, alors là c'est mon avis, de laisser faire l'usage? Chaque année, il suffit pour s'en apercevoir de feuilleter les dernières éditions des dictionnaires, la langue se fait moins exigeante. Vous l'avez sans doute constaté, mais l'accent grave sur le deuxième E d'événement vient d'être accepté par Larousse. Les mots italiens, les macaronis, les raviolis et autres gnocchis qui faisaient autrefois régner la terreur dans les compétitions d'orthographe sont aujourd'hui uniformément francisés, font leur pluriel en S. Et je pourrais vous citer des dizaines d'autres exemples qui prouvent que la simplification est en marche. Alors je pose la question, pourquoi ne pas laisser faire les choses? Pourquoi, pour reprendre une formule célèbre d'un homme politique, ne pas laisser autant le temps? Une langue, n'en déplaise à certains, ne se dirige pas comme un syndicat, c'est l'usage qui décide.
Pourtant, certains pays ont réussi à moderniser leur langue, comme la Norvège. Et les partisans d'une réforme ont des idées tout à fait claires sur les solutions à apporter. On retrouve Nina Katash, cette linguiste qui a co-signé en février dernier dans Le Monde un appel pour la modernisation de l'orthographe.
Tous nos collègues de tous les pays d'Europe le font. Donc s'ils le font, on peut le faire, on peut trouver les moyens. Vous savez, quand il n'y a pas de juridiction, on en crée une. Regardez ce qu'on a fait, par exemple, pour Informatique et Liberté ou pour les manipulations génétiques. On a créé. Vous savez, on devient inventif quand il y a un besoin. On peut donc créer de nouvelles juridictions. Mais je dirais encore plus simplement, pourquoi ne pas faire comme nous faisons pour les commissions de terminologie? C'est-à-dire passer un certain nombre d'étapes nationales, internationales, parce qu'il faut aussi penser à nos amis francophones. Donc, on pourrait, comme les commissions de terminologie, avoir des commissions qui font des propositions. Ces propositions passeraient devant le Conseil de la langue française et les organismes compétents. Il y aurait transmission après avis au ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, en cas d'accord, arrêté, publication des listes, introduction progressive dans les écoles et les manuels, introduction dans l'administration, circulaire, au dictionnaire, par exemple, etc. Il y a tout un processus tout à fait mis au point dans les différents pays d'Europe et que nous devrions retrouver. Sous l'Ancien Régime, tout le monde avait son mot à dire. Il y avait des discussions quelquefois acharnées, passionnées, dans la ville, à la cour, ça bouillonnait. Il y avait un dialogue général sur la langue et sur l'écriture. Il faudrait retrouver cette part de démocratie.
Il est évident pour Nina Katash que d'éventuelles listes de mots modernisées ne pourraient être que des recommandations qui pourraient être appliquées par exemple dans les administrations. Alors seul l'avenir pourra dire si l'orthographe française connaîtra bientôt des changements, reste que le débat est lancé. Et après tout, il n'est pas mauvais que les Français réfléchissent à leur langue. Le mot de la fin à Bruno De Waal, ce professeur qui a remporté le premier championnat d'orthographe en 1985.
Je crois que cette fameuse réforme, il y a des chances pour que l'on en parle encore longtemps, qu'elle fasse couler encore beaucoup d'encre. D'ailleurs, il y a des livres à vendre, hein, vous le savez. Mais il y a beaucoup moins de chances, à mon avis, pour que cette réforme voie le jour. Et ne serait-ce que parce que les Français, au fond d'eux-mêmes, et sans en être toujours conscients, ça je vous l'accorde, n'en veulent pas. Et ça j'en suis intimement persuadé. Certes, il leur arrive de pester contre leur orthographe, comme ils ont pesté contre le bicentenaire. Cela ne les a nullement empêchés, notez-le, de se précipiter au défilé, ni de faire un triomphe à la Marseillaise de Goude, flattés qu'ils étaient au fond d'eux-mêmes encore une fois par l'image que de telles manifestations donnaient de la France. Alors, les détracteurs de l'orthographe, je crois, feraient bien de méditer pareille ambiguïté. Bernard Pivot a fait procéder en mars dernier une très vaste enquête, et d'où il ressortait, curieusement, je vous l'accorde, que si 70% des personnes interrogées trouvaient l'orthographe française difficile, il s'en trouvait 86% pour estimer qu'elle faisait partie du patrimoine, et 12% seulement pour affirmer qu'elle n'était qu'un casse-tête inutile. Mais il y a plus étonnant encore, si globalement, près de la moitié des Français se disent « c'est vrai, favorable à une réforme », Ce n'est plus du tout la même chanson dès que l'on aborde les mesures concrètes. Voulez-vous, leur a-t-on demandé, que l'on supprime les circonflexes ? 52% pas d'accord. Que l'on supprime le doublement des consonnes ? 56% pas d'accord. Que l'on supprime les traits d'union ? 59% pas d'accord. Alors de tels chiffres, pour surprenants et paradoxaux qu'ils soient, se passent évidemment de commentaires. Et je ne parle pas du formidable succès médiatique du championnat de pivot, qui chaque année fait s'installer des millions de Français, de francophones devant leur téléviseur. Alors que l'on puisse s'amuser avec sa langue, n'est-ce pas la meilleure des preuves qu'il faut la conserver telle qu'elle ou presque ? Les occasions de s'amuser sont devenues tellement rares de nos jours.
Voilà, c'est la fin de ce carrefour consacré au débat sur l'orthographe en France. Merci de nous avoir suivis. Vous écoutez Radio France Internationale.
Thank you.